banal entre les draps et les serviettes et faire sécher les violettes. Elle a le cœur comme un concert, allégré tout mon dérato, pour tes espoirs.
Évidemment, il n'acceptait pas qu'on dise que sa mère est folle. Et puis, j'interromps, enfin, je comprends, et je dis, mais pourquoi est-ce que vous dites que cette maman est folle? Le gamin a dit, mais non, elle n'est pas folle. J'ai dit, je sais que ta maman n'est pas folle, mais ça m'intéresse quand même de savoir pourquoi eux disent qu'elle est folle. Parce que c'est quand même pas rien être folle. Hein. Et tout de suite, les autres, leur premier, elle me dit, mais elle ne fait rien. Elle ne fait rien toute la journée. Elle dit, t'as une petite sœur. Elle a 4 ans, elle fait caca dans sa culotte, et toute la journée, elle doit rester avec son caca dans sa culotte. Alors que ta mère, elle n'a rien à faire, et elle pourrait quand même faire ça. Et ça, elle ne le fait pas, donc elle est vraiment folle. Et le petit garçon dit, mais normalement, c'est ma charge. Alors déjà, le petit garçon, culpabilité, il dit, pour le moment, c'est normal qu'elle reste avec son caca dans sa culotte, parce que moi, je préfère venir à l'atelier. Mais je ne peux pas faire les deux. Et puis très vite, comme ça, on en est venu, les autres gamins qui disent « Oui, mais quand on lui dit bonjour, elle ne nous regarde pas. » Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, après beaucoup de discussions avec ces enfants et des discussions avec d'autres femmes dans le camp et avec cette femme en particulier, effectivement, cette femme avait dur. Et cette femme faisait effectivement plusieurs, régulièrement, des séjours à l'hôpital, et cette femme était au bord de la dépression, si pas complètement dedans. Et c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait difficile à vivre, mais dans cette situation-là, moi, je crois que je serais au moins dans cet état, si pas pire. Mais cette vision comme ça de cette femme, parce qu'elle ne fait rien, parce qu'elle a plus elle est en pantoufle toute la journée, même le minimum, elle n'a même plus le courage de le faire. Elle n'a pas. Pourquoi est-ce qu'on doit respecter quelqu'un qui n'est rien, mais qui est considéré comme rien? Je pense que c'est ça. Je trouve ça terrible de ça. Pour moi, il y a une responsabilité parce que ça, ça n'est pas très cher. On a les moyens d'envoyer des casques bleus, des tanks et des avions. Je ne sais pas s'il faut le faire ou pas. J'en sais rien. Je ne suis pas militaire et je ne suis pas stratège. Mais ça, je sais que ça coûte très, très cher. Alors, on fait des heures de silence parce qu'il y a deux casques bleus qui sont morts. On oublie les centaines de morts à côté. Mais enfin, moi, un casque bleu, ça vaut quand même beaucoup d'argent. Et puis, c'est leur métier aussi. C'est la guerre. C'est-à-dire, je trouve c'est très triste pour leur famille ou leurs amis que ces jeunes garçons soient morts. Mais c'est leur métier, quand même. Mais par contre, on n'a pas d'argent. On ne prend pas les moyens pour donner un minimum de considération par rapport à ces gens-là.
Les abonnés ne sont rien. Elle a le cœur comme un concert. Elle gratte dans tes râteaux. Pour tes espoirs, tes déchéances. Pour tes hivers, tes espérances. Elle a le cœur comme des étoiles. Un firmament où tu pourras. Ici les voiles, les points plus larges. Aller cueillir des fleurs sauvages. Thank you.
vous avez-vous vu des femmes qui, à un moment donné, décident de faire autre chose ? Dans le camp où vous travaillez, à Vich, près de Ljubljana. Il y a toutes ces images qu'on montre hein, de situations très accablantes et très tristes. Et d'ailleurs, vous avez vu des photographes prendre ces photos au même endroit où vous, vous voyez des femmes qui faisaient autre chose.
Oui, il y a par exemple l'enseignement. Quand ces enfants et ces femmes sont arrivés, il n'y avait évidemment pas d'enseignement organisé. Maintenant, il y a un enseignement qui est organisé, mais de 2, 3, 4 heures maximum par jour. Mais ça, c'est une initiative de femmes à l'intérieur des camps et d'anciens professeurs ou d'anciens instituteurs. Je veux dire, ce sont les femmes, à un moment, qui s'est dit, on va se regrouper, on va essayer de trouver, avec des pauvres petits moyens, sans être payées. Pendant plus d'une année, ces femmes ont enseigné sans être payées. Maintenant, c'est repris par le gouvernement slovène en disant « Mais regardez tout ce qu'on organise. » Mais on a tout à fait oublié que ça, c'est une initiative d'individus et c'est une initiative de femmes. Des groupes de self-help, par exemple, des femmes qui se regroupent, qui se regroupent et qui discutent de qu'est-ce que... qui on est, comment vivre avec ce qui nous est arrivé, comment gérer notre vie seule en tant que femme, en tant que maman, et après, comment est-ce qu'on va pouvoir retrouver notre mari ? Qu'est-ce que ça va être une femme qui a vécu 4 ans dans un camp par rapport à un mari qui a vécu 4 ans dans les tranchées ? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir se retrouver avec des vies complètement différentes, avec lui qui est un héros et elle qui est moins que rien, avec elle qui n'a pas cette possibilité de pouvoir travailler. Il y a certains camps, et notamment un camp Šmartinska à Ljubljana, où il y a la prostitution. Il y a la prostitution depuis 3 ans, on le sait. On ne fait pas grand-chose pour, pour la rayer. Moi, j'ai vu des enfants qui considéraient, qui m'ont dit « Ah, maman, regarde comme elle est belle !» Parce que c'était une femme qui avait trouvé un travail, même si elle était exploitée. Elle se changeait, elle se maquillait un peu, elle était autre chose. Et puis elle avait un peu d'argent, elle pouvait enfin amener son gamin au cinéma, alors qu'avant elle ne pouvait pas le faire.
Parce que dans les faits, elles peuvent sortir du camp, elles pourraient avoir un minimum de relations avec la population du pays dans lequel elles sont accueillies. Comment c'est elles pourraient faire ça ou leur activité est strictement limitée à l'intérieur du camp ?
Elles pourraient, très peu le font. D'abord par certaines par faute de moyens, parce que certaines n'ont même pas l'argent pour payer un bus, parce que je pense qu'elles sont un peu gênées, parce que comme c'est une langue différente, elles disent mais on entend que je suis réfugiée. Elles disent plus on entend que je suis bosniaque, hein. Parce qu'avant certaines femmes, j'ai souvenir notamment cette femme dont je parle qui a retrouvé un petit boulot et qui a tout à fait changé physiquement. Par exemple, elle, la photographe que j'ai vue prendre des photos de réfugiés, j'aurais voulu qu'elle prenne cette photo-là. J'aurais voulu qu'elle prenne cette photo, cette femme, en allant travailler. C'était autre chose que cette femme avant qui ne travaillait pas. Alors c'est sûr qu'elles peuvent avoir des regards tristes. Mais je pense aussi qu'on choisit de montrer, ce qu'on a envie de montrer. Je veux dire, moi, il y a des moments où je n'ai pas toujours la même tête. Hein. Il y a des moments où je suis plus triste, d'autres moins triste, ou des moments où je me trouve plus jolie que d'autres. Ça ne me plairait pas forcément de me retrouver dans un journal ou dans une exposition d'une grande galerie de photographie à Bruxelles avec une tête triste, surtout en plus si je ne suis pas prévenue.
Pour terminer, Mariska, vous avez dit tout à l'heure que quand on parlait de, par exemple, vos parents qui étaient colons, dans l'ex-Congo belge, en tout cas, il y avait une chose incroyable, c'est que votre père, en tout cas, n'avait jamais préparé la relève. On voyait qu'ils étaient là pour être là, mais pas pour vraiment faire que les gens puissent assumer même leurs histoires. Vous-même, vous êtes confronté à cette problématique en Slovénie. Vous avez organisé des ateliers de peinture. Les enfants adorent ça. En tout cas, du moins, ils trouvent un espace magnifique pour eux. Ils disent qu'ils préfèrent même s'occuper de leur petite sœur que de venir à l'atelier plutôt que s'occuper de leur petite sœur. Et puis, quand vous n'êtes plus là,
il y a eu un atelier qui a continué par c'est une jeune fille, Alma Pasic, mais cette jeune fille est partie avec sa famille au Québec, hein, ce que je peux tout à fait bien comprendre. Son père disant, ma grand-mère a connu la guerre, ma mère a connu la guerre, moi j'ai connu la guerre, Maintenant, les Balkans, ça finit. Je m'en vais et je ne veux même plus aller en Europe. Parce qu'il avait des propositions d'aller en Allemagne. Il dit non, moi, l'Europe, c'est fini. Et alors, c'est difficile que ça continue. Il y a eu un autre groupe qui a fait aussi un travail avec les réfugiés, qui est un groupe belge aussi, Grafoui, qui fait des dessins animés. Eux ont fait un travail surtout de films d'auteur. Donc, ils ont aidé un jeune croate à réaliser son dessin animé. Ce dessin animé est maintenant terminé. Ce jeune croate est retourné à Zagreb avec le projet et l'idée de créer un petit groupement de dessins animés. Puis au moment de la guerre de Croatie, ben lui et ses quatre copains sont partis dans la nature, parce que s'ils ne partaient pas dans la nature, ils étaient enrobés dans l'armée. Donc c'est aussi des conditions extrêmement difficiles, la suite. Et puis je crois aussi que c'est pas... moi, je ne suis pas une organisation à moi toute seule. Je veux dire,
Non, mais ma question était de dire, est-ce qu'on se pose la question de façon plus responsable aujourd'hui, de dire on enclenche des choses dont on sait bien qu'elles sont... Le travail que vous faites n'est pas lié en premier lieu à la survie. On ne pourrait pas dire que c'est simplement manger, dormir, etc. Donc, c'est justement ce type de travail dont on peut imaginer qu'il devrait continuer. Et est-ce qu'on s'est posé la question de savoir, après votre départ ou celui de quelqu'un d'autre, Cause Commune, l'organisation pour laquelle vous avez travaillé aussi, par exemple, s'est posé la question de savoir comment cela va continuer. C'est pas que vous, personnellement, effectivement, que j'interroge.
Elle se l'est sans doute posée, mais en tout cas, elle n'a pas... à mon avis, elle ne s'est pas donné ni les moyens, elle ne les a pas eu non plus. Je crois que le programme dans lequel on est parti, c'est un programme de la communauté européenne. Je pense qu'une partie, en tout cas, de l'argent de ce programme, c'était un peu jeté à la poubelle, parce que ça ne, on a voté un programme pour une année, et puis après, on ne l'a plus reconduit. Cause Commune, on voit toujours de la nourriture à l'heure actuelle. Mais plus le culturel, c'est pas rentable. Moi, je crois que la chose qu'on m'a demandé le plus, c'était des résultats. Et s'il y a des choses, s'il y a eu, entre guillemets, des résultats que j'ai pu ramener, c'est-à-dire des peintures, c'est parce que moi, à un moment, j'ai dit à Cause Commune, les deux mois de mandat que j'avais, c'est pas suffisant. Et j'ai dû prendre sur moi-même, sur mon temps, sur mon argent, sur l'organisation de mon propre travail à Bruxelles, pour continuer à partir. Je veux dire, c'était pas... j'ai jamais pensé passer 6 mois en l'espace d'un an en Slovénie. Je l'ai fait parce que moi, j'étais pas contente de moi-même. Et à un moment, c'est vrai que j'étais souvent en bagarre avec Cause Commune en me disant, ça devient presque mon propre projet. Pour moi-même, il faut que je continue. Et souvent, j'étais effrayée du peu de considération par exemple, des gens. On s'intéressait éventuellement aux résultats, peu importe les conditions dans lesquelles on les avait fait, et peu importe qui. On fait des choses pour les réfugiés du moment que ça rapporte, du moment qu'on peut avoir une idée. De la même manière qu'il m'est arrivé souvent de travailler avec des handicapés, souvent les gens me disaient, oh mon Dieu, c'est bien, qu'est-ce que tu fais? J'ai eu cette même réaction par rapport à Slovénie. Non, c'est pas bien, c'est pas plus facile de travailler ou plus difficile de travailler en Slovénie ou à Bruxelles ou à Genève. Je pense qu'il n'y a pas à dire merci, ou il n'y a pas... Moi, j'ai jamais eu l'impression d'essayer de tirer une fierté ou une gloriole d'avoir travaillé en Slovénie. Le travail que j'ai fait pendant 6 mois en Slovénie, il était important pour moi dans ma vie privée, mais il n'est pas plus important que ce que je vais continuer à faire à Bruxelles, peu importe dans quel quartier ou peu importe avec n'importe quelle population. Il n'y a pas comme ça cette échelle de valeur. En plus, on travaille avec des populations soi-disant difficiles ou entre guillemets difficiles. C'est comme si on devait avoir une espèce de fierté comme ça. Je pense que c'est comme si au plus loin on va, au plus loin au niveau de géographie, beaucoup de gens travaillent au niveau de l'Afrique, de la Slovénie ou autre, mais par exemple s'en foutent pas mal de ce qui se passe dans leur pays. Moi, à Bruxelles, j'habite Bruxelles, je suis bruxelloise, c'est quelque chose qui continue à me concerner, la Belgique. Et c'est pas parce que j'aurais envie d'aller travailler à l'étranger, mais c'est pas pour nier mon côté de citoyen. Je suis citoyenne belge et la politique belge ou de ma petite commune continue à m'intéresser. Et je pourrais même passer deux ans dans un autre pays, c'est pas pour ça que ce travail-là serait mieux. Mais il est mieux considéré. Comme à Bruxelles, par exemple, dans le milieu socioculturel, on considère souvent, on octroie plus facilement un budget parce qu'on travaille avec des immigrés que des enfants de bourgeois. Pourquoi ? Moi, j'ai vu, je travaille avec les deux populations, je vous garantis que ce n'est pas plus facile et qu'il y a un besoin pour moi de création et un devoir que la société doit donner de prise de parole et de création, peu importe le milieu. Et c'est un droit à l'expression. Qu'on soit réfugié, fils de bourgeois ou immigré, c'est un droit.
Merci à Mariska Forest pour cette très belle rencontre et donc la semaine prochaine, le prolongement de cette rencontre dans le cadre d'Amnesty International, la rencontre avec Cécile, la rencontre avec Marianne Odelia, Hilda, trois femmes qui, femmes engagées, se sont mises en danger et vont témoigner de leur histoire. Parfois, je m'excuse, un petit peu compliqué parce qu'elles parlent trois langues différentes et elles ne se comprennent pas l'une l'autre, donc il y a un petit problème de traduction. Mais j'espère que ça ne vous gênera pas de découvrir leur témoignage. Le redécouvrir si vous l'avez déjà entendu. Voilà, la semaine prochaine, dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Vous avez entendu tout au long de cette rencontre avec Mariska Forest, des chanteuses merveilleuses. Je n'ai pas interrompu notre entretien pour vous les annoncer. Je vous les annonce vite maintenant, dans l'ordre où elles ont passé. Bien d'abord, il y avait Mama Béa, il y a eu la grande Billie Holiday, et puis la douce Anna Prucknall. Re-Mama Béa pour un petit clin d'œil bien satirique sur les femmes carbone. Et puis Ute Lemper. Et Ute Lemper, eh bien, c'est avec elle que nous allons finir cette émission de Remue Ménage aujourd'hui, avec un disque très spécial qui ne lui ressemble pas beaucoup, mais qui visiblement a été un défi pour elle à soulever, qui s'appelle Espace Indécent. Et ici, c'est une chanson qu'elle nous fait partager.
Je t'écris face au mur aveugle qui tranche la lumière. Mes éventreront bientôt ces parois capitonnées. Et tu sortiras. Au bout du couloir, après les odeurs de Javel, tu reverras le bleu. Tu sais, celui qui pleut à grosses gouttes très loin et très haut, et que j'entends parfois frapper à mes carreaux. Ils ont dit bientôt. Demain quand la porte se refermera, tu te sentiras comme une feuille morte. La rue sonne. Le regard têtu, je ne serai pas là. Alors si demain quand tu sais.
sortira. Alors si demain je ne suis pas là, je ne suis pas là, c'est qui y aura eu tant d'incertitudes, tant d'espoir perdu.
L'Empereur dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8, et dans quelques instants, c'est les informels de Radio Pleine Lune, puis les coups de cœur de Marjolaine. Et pour, c'est toujours Outé L'Empereur qui nous donne des clins d'œil. Celui-ci, c'était en lien avec notre émission d'aujourd'hui, notre rencontre avec Mariska Forest. Et puis la suite, c'est tout pour vous.
Silencieusement s'étend la sève immobile d'espérance peu docile. D'ici l'amour descend torrentiel. Je ne peux.
Sans appel, qu'elle soit des solitudes, des fins ou des préludes, la peur est un bleu réel. Elle te saisit à bras le ventre et elle te noue, elle te vipère. Tu te déchires et elle t'éventre jusqu'au venin, jusqu'aux viscères. La peur a des mamelles ou repus de déchéance. La peur toujours fidèle ou noire de ton enfance. Elle te virgule tes petitesses à plein chariot, à pleine détresse. Elle te dissèque à gueule ouverte, elle se breloque ton cœur inerte. La peur se monte accrue au pied des Amazones. Le mort aux dents rompues, la peur ça t'éperonne. Elle te rature, te camelote, tu n'es plus rien quand elle te tient. Et te pâture et te crachote quand elle t'égorge d'un coup de rein. Sans scrupule, la peur qui te viscère et te rend ridicule, indécent et vulgaire. Et tes traitures et tes serpentes te défigurent à crocs fermés sur ces années qui se lamentent sur tes moulins décapités. La peur revient d'ailleurs, pense d'autres douleurs, d'un autre qu'elle tutoie, d'un moins ami que toi. Tu vas bleuir tes drames. Bordé par des cierges sans Dieu, jusqu'à briser tes os frileux contre les nœuds d'un poids glacé. La peur est une attente, la mort est son amant. La mort, celle qui t'enfante, la peur est innocente. Tu vas descendre, tu vas te rendre jusqu'au denis, jusqu'à l'instant. Pour quel instant qu'un feu de paille, la peur t'oublie, pour quel sonneur. Jusqu'à l'usure, manger.
et de terre et de pardon et de prière et de parjure. Tu vas rouler dans tes bas-fonds, tu vas donner agenouillé pour un amour ancien qui ment, tes tripes à l'air sur le pavé.